Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition de 19h30 en universel du mercredi 23 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. Le président rwandais Paul Kagame en visite en France, son homologue français Emmanuel Macron soutient la chef de la diplomatie rwandaise pour diriger la francophonie.
Je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction.
République démocratique du Congo, selon Médecins sans frontières, 3 personnes porteuses du virus Ebola à Mbandaka se sont échappées de l'hôpital avant d'être retrouvées. Les fonctionnaires tchadiens réclament l'intégralité de leurs salaires qui sont amputés depuis février. Et puis le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un réclame une aide économique des États-Unis et des garanties de sécurité pour abandonner le nucléaire. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, 3 patients contaminés par le virus Ebola ont quitté contre l'avis des médecins l'hôpital de Mbandaka, ce qu'a annoncé un responsable local de Médecins sans frontières ce mercredi. Les précisions de John Lyndon.
3 patients ont quitté de leur propre gré la zone d'isolation de l'hôpital de Wankata dans la région de Mbandaka entre dimanche et mardi, a déclaré Henri Gray, coordinateur de l'intervention d'urgence de Médecins sans frontières sur Ebola à Mbandaka. 2 de ces 3 malades sont depuis décédés. Le premier patient, qui était sur le point d'être guéri, a quitté l'hôpital dimanche soir, tandis que les 2 autres ont quitté la structure avec leur famille dans la nuit de lundi à mardi, a-t-il expliqué. Les 2 derniers sont décédés, l'un à domicile et l'autre au centre d'isolement où il a été reconduit. Selon Médecins sans frontières, tous les efforts ont été faits par le staff sur place pour convaincre les patients ainsi que leurs familles de ne pas quitter le centre afin de poursuivre les soins. L'épidémie d'Ebola a été déclarée le 8 mai à Bikoro, dans la province de l'Équateur. Officiellement, le nombre de morts s'élève à 27 sur 58 cas confirmés ou suspects.
Le président rwandais Paul Kagame effectue une visite de 2 jours en France. Il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée pour sa première visite depuis 2011. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le président rwandais est à Paris pour participer au salon Vivatech. Le Rwanda nourrit l'ambition de devenir l'un des centres numériques de l'Afrique. Paul Kagame a participé à l'Élysée à un déjeuner avec des patrons du numérique comme Mark Zuckerberg du réseau social Facebook et Satya Nadella de Microsoft. Les 2 présidents vont visiter ensemble le salon Vivatech. Après s'être entretenu avec son homologue rwandais, Emmanuel Macron a annoncé qu'il va se rendre début juillet au sommet de l'Union africaine à Nouakchott, dont Paul Kagame est le président en exercice. Le chef de l'État français a par ailleurs dit assumer la complexité des relations entre Paris et Kigali, tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda.
Et justement, on écoute le président français Emmanuel Macron qui apporte son soutien à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, pour diriger la francophonie.
Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Elle a une maîtrise parfaite de la langue française. Dans un pays dont le président s'exprime en anglais, mais dont autour de la moitié de la population, si ce n'est un peu plus, parle encore français, contrairement à ce que j'entends parfois dire, qui est membre à plein de la francophonie, et où justement le lien du français avec une autre langue et d'autres langues, parce qu'il y en a plusieurs, s'exerce à plein.
C'était le président français Emmanuel Macron. Au Tchad, les fonctionnaires ont demandé le paiement intégral de leur salaire lors d'une assemblée générale à N'Djamena. Depuis janvier, les primes et les indemnités ont baissé. Le point avec Marie Benson.
Lors d'une assemblée générale mercredi, l'Union des syndicats du Tchad a demandé le paiement intégral des salaires. En janvier, le gouvernement a coupé de 50% les primes et indemnités des fonctionnaires. Chaque employé de la fonction publique a perdu environ 100 000 francs CFA par mois, soit un tiers de ses revenus depuis 2016. Le Tchad compte environ 92 000 employés dans la fonction publique. Pour des raisons budgétaires, le président Idriss Déby souhaite attendre jusqu'à la fin de l'année pour régulariser les salaires. Pendant 2 mois, les fonctionnaires ont protesté dans les rues malgré l'interdiction des manifestations. N'Djamena doit réduire la masse salariale à la charge de l'État. Le Fonds monétaire international a accordé au Tchad 2 tranches de financement de 99,8 millions de dollars.
Au Nigeria, 12 personnes sont mortes du choléra en 4 jours dans l'État de l'Adamawa, dans le nord-est du pays, selon le ministre régional de la Santé. Cette nouvelle vague d'épidémie qui a débuté dimanche a contaminé 142 habitants dans le district de Moubi. C'est ce qu'a indiqué Ahmad Sajo. Un ingénieur syrien enlevé la semaine dernière par des hommes armés dans l'état de Sokoto, dans le nord du Nigeria, a été libéré. C'est ce qu'a annoncé la police locale. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a ignoré une convocation du Parlement qui comptait l'entendre sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. La commission parlementaire des mines et de l'énergie voulait interroger le président Mugabe sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait la perte par son pays de 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies étrangères. Le président de la commission a déclaré que le Parlement a toujours le pouvoir de lui imposer une comparution. La justice malgache a confirmé une condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis infligé à un militant écologiste. Il était opposé à un projet de mine d'or confié à une entreprise chinoise. Interpellé un mois plus tôt lors d'une rencontre avec la direction de la mine, il avait passé 1 mois en détention préventive.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
États-Unis, Corée du Nord, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, affirme que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un attend en contrepartie une aide économique et des garanties de sécurité pour abandonner le nucléaire. On écoute les explications d'Ekiabadou.
Devant une commission de la Chambre des représentants, le secrétaire d'État américain a assuré que le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un est toujours prévu pour le 12 juin. Alors que le président américain a évoqué hier un éventuel report, M. Pompeo se dit toujours optimiste après avoir déjà rencontré à 2 reprises le dirigeant nord-coréen à Pyongyang. Devant les parlementaires, il a affiché la fermeté, disant que la position américaine ne changera pas tant qu'il n'aura pas vu des pas crédibles vers la dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. Selon lui, le dirigeant nord-coréen a clairement exigé en contrepartie une aide économique de l'Amérique, notamment de son secteur privé, et une aide internationale. Il a également dit que Kim Jong-un veut des garanties de sécurité et éventuellement aboutir à un traité de paix pour mettre fin à la guerre de Corée de 1950 à 53, qui s'est achevée avec l'armistice.
L'ambassade des États-Unis en Israël a pris ses distances avec un photomontage présenté la veille à l'ambassadeur David Friedman, selon lequel les lieux saints musulmans de Jérusalem ont disparu au profit d'un temple juif. Sur l'image, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées ont disparu et laissé la place à un temple juif. Face au début de controverses, l'ambassade américaine a exprimé sa réprobation et indiqué que les faits s'étaient produits à l'insu du diplomate. Le premier ministre français Édouard Philippe a annulé son déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens prévu les 31 mai et 1er juin. Paris évoque des raisons d'agenda intérieur liées au travail gouvernemental des prochains jours. La situation est particulièrement tendue dans cette région ces dernières semaines. Depuis le 30 mars, 118 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza. Un tribunal israélien a accepté d'étudier le recours de Human Rights Watch contre l'expulsion de son directeur local. Le tribunal a suspendu du coup l'application de la mesure d'expulsion. Cette suspension intervient à la veille de la date fixée par les autorités israéliennes pour l'expulsion d'Omar Shachir, accusé de soutenir le boycott d'Israël. M. Shachir avait refusé soutenir ce boycott et en réalité, on cherche à museler Human Rights Watch et à faire taire les critiques contre le piètre bilan d'Israël en matière des droits de l'homme, avait-il affirmé.
Au Liban, Nabi Berri a été réélu mercredi pour un sixième mandat à la tête du Parlement. Un record de longévité, cet allié du Hezbollah occupe ce poste depuis 26 ans. La réélection pour 4 ans de M. Berri, âgé de 80 ans, a été une formalité. Sans rival, il a obtenu 98 voix sur 128. Inquiétude sur l'avenir de l'Europe, le président du Parlement européen a déclaré que l'institution qu'il dirige va probablement connaître une poussée eurosceptique lors des élections de mai 2019. Antonio Tajani a appelé les forces politiques pro-européennes à travailler dur avant ce scrutin. Dans un an, l'avenir de l'Europe sera entre les mains de quelques 450 millions d'Européens de 27 pays, a déclaré Tajani. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerekiza.
Les bailleurs de fonds internationaux promettent 1,7 milliard de dollars d'aide à la Gambie. Ce financement vise à poursuivre sa transition démocratique, créer des opportunités en faveur du peuple gambien et renforcer davantage la démocratie. Les recettes du secteur touristique en Égypte ont dépassé plus de 2 milliards de dollars au premier trimestre 2018. Il s'agit d'une hausse spectaculaire de plus de 83% par rapport à la même période de 2017. Le nombre de touristes a bondi de plus de 37%, soit près de 2 millions et 400 000 touristes. Le tourisme représente 12% du produit intérieur brut égyptien. En 2010, les recettes se sont élevées à plus de 11 milliards de dollars. Les géants mondiaux du numérique ont annoncé des mesures de protection sociale, d'éducation ou d'investissement sur fonds de contentieux fiscaux. Uber va offrir gratuitement à ses 150 000 chauffeurs et coursiers dans 21 pays d'Europe une assurance sociale pour couvrir les maladies, les accidents du travail et hors travail. Deliveroo va offrir à ses coursiers dans le monde une assurance accident et responsabilité. Accenture va investir 200 millions de dollars sur 5 ans pour des formations destinées aux personnes éloignées de l'emploi. La fondation de Google va donner 100 millions de dollars sur 5 ans pour des projets à but non lucratif de formation aux métiers du numérique, notamment en Afrique.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Soupçon de corruption à la Fédération ghanéenne de football.
La police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des allégations de corruption à Accra à l'encontre du président de la Fédération de football, faisant suite à une demande spéciale du président ghanéen. Cette affaire résulte d'une enquête menée par un journaliste infiltré au sein de la Fédération qui n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire.
Début de la préparation de la Coupe du Monde pour le Sénégal.
Oui, la sélection sénégalaise est réunie pour une courte mise au vert près de Dakar. C'est la seule occasion de communier avec les supporters sénégalais avant le mondial en Russie. Pour des raisons notamment financières, la fédération n'a pas organisé de match de préparation au Sénégal avant la première Coupe du Monde des Lions de la Teranga depuis le fameux quart de finale de 2002 au Japon et en Corée du Sud. Le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé sa liste des 23 joueurs. Il a donc donné rendez-vous à ses troupes dans la station balnéaire de Sali pour le premier entraînement hier dans la tanière. Seuls 7 lions étaient présents. Les autres devaient arriver dans la semaine, sauf évidemment Sadio Mané qui, vous le savez, prépare la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid.
Emery rebondit à Arsenal.
Unai Emery, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, a été nommé manager d'Arsenal. Annonce du club londonien après évidemment 22 saisons sous la houlette d'Arsène Wenger. Le technicien espagnol de 46 ans a remporté 3 Europa League consécutives avec Séville avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour les 2 dernières saisons. Il a évidemment eu beaucoup de titres, mais il a surtout été éliminé en Ligue des Champions avec la fameuse remontada, la défaite 6-1 à Barcelone.
Et on termine par la NBA. Les playoffs se poursuivent dans le championnat nord-américain de basketball.
Houston a stoppé l'incroyable série de 16 victoires consécutives à domicile en playoffs de Golden State. Large victoire à l'arraché, 95 à 92. Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale à Boston ou Cleveland. Eux aussi, dos à dos, 2 victoires partout dans la finale de la conférence Est.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Depuis le 7 mai, le Congo-Brazzaville vit au rythme des procès à caractère politique et militaire. Nombreux estiment que le pouvoir veut régler des comptes à des opposants et à ceux qui, partisans du régime, développent des ambitions politiques. Mais pour le PCT, le parti au pouvoir, il faut avoir confiance en la justice. De Brazzaville, la correspondance d'Arsène Séverin.
Ces procès donnent lieu à de diverses interprétations auprès des populations qui restent éveillées à suivre jusqu'à tard dans la nuit la diffusion des audiences sur la télévision nationale. Chacun se fait sa propre opinion et l'opposition estime que tous ces procès sont cousus de fil blanc. Éric Patrick Mampouya, membre de la Fédération de l'opposition congolaise, dit comprendre les velléités des généraux à vouloir renverser les institutions.
Parce qu'à côté, il y a un monsieur surarmé, le pouvoir actuel, qui ne fait rien face aux difficultés des Congolais. On ne peut pas le changer. Ils sont là, arc-boutés. À la prochaine élection, c'est encore eux. Ça fait 50 ans, ça dure. Alors, quelle est l'alternative? Je ne justifie pas la violence. Attention. Mais à un certain moment, je peux la comprendre. Je comprends les généraux qui cherchent à gauche, à droite. Je ne dis pas qu'ils ont cherché parce que les preuves, pour moi, n'existent pas.
En réaction à la condamnation du général Mokoko à 20 ans de prison ferme, la présidente de la Fédération de l'opposition, Claudine Munari, a écrit au procureur de la République, lui demandant de l'incriminer et de lui faire faire un procès, car elle aussi aurait des intentions assimilables à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, crime pour lequel le général Mokoko a lourdement été châtié. Mais au niveau du Parti congolais du travail, PCT, le principal parti au pouvoir, les dirigeants appellent à la sérénité et à faire confiance à la justice. Serge Michel Ozuki est le porte-parole du PCT.
Le parti respectueux de l'indépendance du pouvoir judiciaire ne se mêle pas du tout de ce qui se fait au niveau de la justice. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. C'est la liberté de chacun. L'état de droit, c'est cela.
Analysons les faits avec le recul, le professeur Raymond Timothée Makita épingle une crise de palais qui pourrait faire mal au régime.
En général, les procès qui ont eu lieu dans notre pays concernant des affaires politiques consistaient toujours dans la réaction du pouvoir vis-à-vis d'une opposition. Mais cette fois-ci, vous avez dû constater que la contestation est à l'intérieur même du système. Parce que quand on parle de général Mokoko, de monsieur Okombi, Salissa, de Dabiras, c'est quand même des officiers qui sont très proches du président Sassou et qui l'ont même ramené au pouvoir en 97.
Demain mercredi, s'ouvre un autre procès, celui de l'ancien ministre de la Justice Jean-Martin Bemba, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et dont le co-accusé, le colonel Jean-Claude Mbango, est en détention préventive depuis 2013. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président rwandais Paul Kagame a été reçu par son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée pour sa première visite depuis 2011. Emmanuel Macron a annoncé qu'il va participer au prochain sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Il a aussi apporté son soutien à Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères qui veut diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Comment expliquer ces nouveaux signes de détente entre la France et le Rwanda? Idriss Fall a joint à Paris Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain.
Il y a plusieurs choses qui ont concouru à cette ébauche de réconciliation. D'une part, l'élection en France d'un président de la République qui n'a pas de contentieux avec le Rwanda, comme pouvait en avoir François Hollande, qui était déjà à l'Élysée en 1994 et qui recevait les téléx des services secrets, qui était dans la ligne de la politique de François Mitterrand, alors qu'Emmanuel Macron était tout jeune au moment du génocide. Il est en quelque sorte complètement neuf sur ce dossier, sans doute prêt à trouver des solutions pragmatiques.
Et peu avant l'arrivée de Kagame, il y a un haut responsable militaire qui a dit qu'il faut déclassifier.
Exactement. Il s'agit de l'amiral Jacques Langsad, qui était le chef d'état-major particulier de François Mitterrand au début de la guerre civile au Rwanda en 1990 et qui est devenu par la suite chef d'état-major général des armées françaises. Il vient de déclarer qu'il était favorable à la déclassification des documents militaires car, dit-il, l'armée française n'a rien à se reprocher. Cette question de la déclassification question est cruciale dans les rapports entre la France et le Rwanda, car visiblement il y a des oppositions très fortes, notamment de la part d'Hubert Védrine, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Comme ces oppositions doivent avoir une raison, on suppose qu'il existe parmi les documents qui sont toujours classifiés des éléments, disons, inavouables, selon l'expression de Patrick de Saint-Exupéry. La démarche de l'amiral d'Anxade va dans le bon sens. Peut-être que ce ne sont pas des documents militaires qui posent problème, mais en tout cas, au moins qu'on déclassifie l'ensemble de ces documents, ça permettra d'avancer.
Vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir des relations France-Rwanda?
Oui, il y a toutes les raisons d'être optimiste. D'abord, la fin de l'interminable enquête Bruyère, commencée en 1998, donc ça fait 20 ans, les juges d'instruction ont décidé de clôturer le dossier, donc il appartient aujourd'hui au parquet. Il y a de fortes probabilités que le parquet demande un non-lieu, car tous les éléments à charge contre les officiels rwandais de l'entourage de Paul Kagame dans l'attentat du 6 avril 1994 se sont effondrés les uns après les autres, chaque fois que les témoins sont apparus peu crédibles, voire totalement manipulateurs.
Qu'en est-il des génocidaires présumés qui habitent et vivent en France?
C'est un des derniers problèmes difficiles à régler. À l'heure actuelle, il y a environ 24 ou 25 suspects de génocide identifiés très clairement pour un rôle important pendant le génocide qui se trouve en France, et la justice est extrêmement lente. On voit bien qu'on arrive à juger en moyenne un ou deux génocidaires tous les deux ans. À ce rythme-là, on ne parviendra jamais au bout des enquêtes qui sont déjà commencées. C'était une source de frustration très importante pour les rescapés du génocide et pour les autorités rwandaises qui, elles, ont, par l'intermédiaire des Gacaca, jugé plus d'un million de personnes.
C'était Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Donc on passe au Cameroun, où rien n'a filtré de la convocation mardi au ministère des Affaires étrangères de l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Ballerine, suite à sa déclaration accusant les forces de sécurité et les séparatistes anglophones de nombreuses exactions. L'ambassadeur Ballerine avait appelé au dialogue pour résoudre la crise dans ces régions anglophones. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint à Yaoundé Jean-François Chanon du quotidien Le Messager.
L'ambassadeur a dit qu'ils étaient très préoccupés par la situation, notamment dans les zones anglophones. Et à ce titre-là, il demandait que le pouvoir de Yaoundé puisse mettre tout en œuvre pour essayer de régler cette situation, de voir comment faire pour la solution de l'affrontement entre les sécessionnistes et le régime de Yaoundé et les forces de défense et de sécurité devait pouvoir ne pas continuer éternellement compte tenu du fait qu'il y a des souffrances des populations. Je vais d'ailleurs vous lire très rapidement un extrait de ce que l'ambassadeur dit à ce propos. Au sujet de la situation dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, le mois d'avril s'est avéré le plus sanglant pour que les choses ne s'améliorent pas. J'ai discuté avec le président de notre point de vue selon lequel les deux parties en conflit ne s'écoutent tout simplement pas. Ça signifie clairement que l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, Henry Ballerine, Peter, a souhaité qu'il y ait un dialogue entre les autorités de Yaoundé et peut-être les sécessionnistes pour qu'on puisse trouver une solution.
Qu'est-ce qui, dans cette déclaration, a provoqué l'ire de Yaoundé?
Bon, ce n'est pas le fait vraiment de la crise anglophone de notre point de vue, mais c'est plutôt l'allusion qui a été faite par l'ambassadeur Peter Harry Ballerine, notamment sur la possibilité pour le président Biya d'entrer dans l'histoire. Et je voudrais une fois de plus, avec votre permission, citer ce passage de l'ambassadeur Peter Henry Ballerine. J'ai suggéré, et j'ouvre les guillemets, j'ai suggéré au président qu'il devrait penser à son héritage et à la façon dont il veut se souvenir dans les livres d'histoire pour être lu par les générations à venir et à proposer que George Washington et Nelson Mandela soient d'excellents modèles. C'est cette allusion-là, parce que l'interprétation qui a été faite, c'est que l'ambassadeur aurait dit au président Paul Biya que le président Donald Trump souhaite que le président Biya quitte le pouvoir. De manière officielle, les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi.
Jean-François Chanon, rédacteur en chef délégué au quotidien Le Messager à Yaoundé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Sims Lumami. À la console, Cédric Franklin. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Au moins 16 personnes ont été tuées dans l'attaque du 1er mai à Notre-Dame de Fatima, église catholique de la capitale centrafricaine Bangui. Elle était le fait d'un groupe criminel dénommé Force, opérant dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Le curé de la paroisse, le père Tunguma Lebaba, figurait parmi les morts. Une violente foule a ensuite attaqué une mosquée à Lakunga, dans la banlieue de Bangui. L'ambassade américaine en République centrafricaine a publié une déclaration exprimant l'horreur et la tristesse au sujet de l'attaque insensée de l'église de Fatima et des représailles subséquentes contre la mosquée de Lakunga. Nous pleurons les décès, de même que les cas de blessures résultant de cet acte criminel, a fait savoir l'ambassade. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles. Les individus à l'origine de cet acte sont des lâches. Ils ne représentent ni les musulmans, ni les chrétiens. Ils ne représentent pas les centrafricains. Ils cherchent seulement à provoquer une sanglante réaction. Les États-Unis exhortent tous les citoyens de la République centrafricaine à ne pas tomber dans le piège de la violence et de la revanche. Cela doit cesser. Les États-Unis condamnent ces actes sans réserve et nous nous tenons aux côtés de tous les centrafricains et prix de paix. Les États-Unis comprennent tout à fait la profonde colère que ressentent les gens actuellement, mais nous implorons tous les citoyens à renoncer à la violence et à regagner leur demeure pour éviter la poursuite du bain de sang. Ce cycle doit cesser pour le bien des enfants du pays et de tout son peuple.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.